Tous. Bonjour les enfants. J'aurai besoin de vous pour aujourd'hui. Noël, c'est la fête des enfants. Et c'est pour ça que je vais vous demander d'abord, vous poser une petite question. Lequel de ces petits chats êtes-vous? Happy! Le petit chat de la joie. Est-ce qu'on peut fêter Noël en étant le petit chat de la angry? Petit chat de la colère, comme ça. Est-ce qu'on peut fêter Noël comme ça? Oui? Non? Donc ça veut dire que quand on fête Noël, il faut toujours qu'on soit joyeux. Ok. Ok, d'accord. Ce matin, on a allumé la bougie de la joie. Et la question qu'on va travailler ce matin, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette bougie de la joie... Est-ce qu'elle représente une simple émotion passagère, la joie, ou est-ce qu'au contraire, ou est-ce que plutôt, elle va au contraire représenter un état beaucoup plus profond, un état de bien-être beaucoup plus profond? Est-ce que la joie de Noël, est-ce que c'est quelque chose qui est passager, ou au contraire, quelque chose de beaucoup plus durable? Donc, est-ce que c'est une bougie comme celle que nous venons d'allumer aujourd'hui, ou une ampoule LED alimentée par un réacteur à fusion nucléaire qui ne s'éteindra jamais? Alors, premier élément, et je pense que c'est important, je vais enlever ce micro, voilà. Je pense qu'il ne faut pas confondre la joie superficielle du monde avec la joie spirituelle dont parle la Bible. La joie spirituelle du monde, c'est une émotion qui fait partie des six ou sept grandes catégories d'émotions. Donc là, vous la reconnaissez facilement. Et il y en a d'autres, des émotions. Une émotion, c'est quelque chose qui, d'après le psychologue Paul Ekman, une émotion, c'est quelque chose qui va provoquer une réaction physiologique. Par exemple, les enfants, c'est quoi votre repas préféré? Abiel? Le canard avec les pommes sautées. Alors, Sophie, est-ce que c'est ce que vous avez prévu de manger ce midi? Ou ce soir? Imaginons qu'on est dans le scénario où ce midi, tu manges du canard avec des pommes sautées. Dans quel état d'esprit seras-tu? Joyeuse. Tu auras même le ventre qui va gargouiller et même tu vas saliver. Moi, mon repas préféré, ce sont les lasagnes et les lasagnes de Marie-Claire. Donc vous voyez, la joie, ça produit tout de suite un effet physiologique. Même chose, quand vous regardez un match de l'ESM et qu'on marque un essai, là vous allez sauter de joie. Alors malheureusement, ce n'était pas le cas hier. On a marqué des essais, mais on a perdu. Bon. Tout ça pour vous dire que la joie, c'est non seulement une émotion qui peut être intense, mais fugace, c'est-à-dire éphémère. Ça ne va pas durer très très longtemps. Elle peut monter crescendo, elle peut devenir très très intense. Donc là, imaginons, donc pas comme hier, mais on marque plusieurs essais, et à la fin, on gagne, la joie sera encore plus importante. Et mettons-nous, si on rêve un peu, et qu'à la fin de la saison, on gagne le bouclier de Brennus, cette joie elle sera encore plus forte, mais peut-être qu'on sera dans un autre état de bonheur, justement. Donc on n'est pas vraiment dans de la joie. Donc la joie, c'est quelque chose qui est passager, éphémère. Et peut-être que ce matin, après ce moment de louange particulièrement intense, on a pu ressentir cette émotion-là, de la joie. Avec peut-être même des larmes de joie, quand on a... Enfin, moi, c'est un peu mon cas de voir des laïcs pour la première fois ici. Waouh, ça fait bizarre. Et en même temps, on prend un coup de vieux. Mais bon, ça, c'est autre chose. La joie, c'est passager. Donc, ça ne dure qu'un temps. Et il suffit d'une tempête, d'une bourrasque de vent, pour voir justement cette flamme qu'on vient d'allumer ce matin s'éteindre. Mais la joie, c'est aussi une émotion qui est en compétition avec d'autres émotions. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est sorti en 2015 et qui raconte l'histoire d'une petite fille, Riley, de 11 ans, hein, et qui va devenir adolescente. Et on voit justement dans ce film, on va dans sa tête, hein, et on voit qu'il y a d'autres émotions que la joie. Hein, donc la joie, vous la reconnaissez facilement, hein, c'est celle qui pétille, qui saute. Mais il y a d'autres émotions. Hein, vous voyez, il y a la colère, le dégoût, la tristesse. Alors je sais que vous n'êtes plus adolescent, mais moi, quand j'ai regardé ce film, hein, j'avais quand même dans ma tête plein de petits Damiens qui avaient un peu cette tête-là. Hein. Donc il y avait le Damien qui était joyeux, le Damien qui faisait tout le temps la tête, le Damien qui était un peu triste. Et souvent, dans cette tête-là, hein, donc la mienne, ben, on a justement ce conflit entre les émotions. On peut être, il y a des bonnes nouvelles, on est joyeux, mais quelques instants après, on est, à cause des circonstances, hein, ben, parfois d'autres émotions vont briser l'élan de mes joies. Nos émotions sont belles. Elles célèbrent des réussites, des fêtes comme aujourd'hui, des bonnes nouvelles, mais tellement fragiles, tellement fugaces. Elles changent avec les ombres de la journée. Elles changent avec les saisons de la vie. Elles changent avec les essais des équipes adverses. La joie de Noël, c'est pas ça. Ça peut parfois être ça, une émotion, mais c'est plus que ça. La joie spirituelle dont parle la Bible, elle est bien différente. C'est un thème majeur dans la Bible, la joie. Elle traverse l'Ancien et le Nouveau Testament comme un fil d'or reliant la promesse de Dieu à son accomplissement. C'est une joie plus profonde, enracinée dans sa présence, enracinée dans la fidélité et l'amour de Dieu. Elle est plus qu'une émotion, plus qu'un sentiment, plus qu'un bonheur. Elle est plutôt un tempérament, et même je dirais plutôt un trait de personnalité, la joie du Seigneur. Une ampoule LED, donc plutôt qu'une bougie. Alors comment trouver cette joie spirituelle? Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour la trouver. Cette joie spirituelle, elle naît de la présence de Dieu, de son action dans nos vies. Elle naît de la reconnaissance que Dieu est là, qu'il agit, qu'il sauve. Le psaume 16, verset 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alors le mot « délice » ici n'évoque pas du tout des lasagnes, bien évidemment. Hein. On est dans quelque chose de beaucoup plus global. Cette joie spirituelle vient de la présence de Dieu. Elle ne dépend pas des circonstances, mais du fait que Dieu est avec nous. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu agit, le peuple se réjouit. Quand Dieu libère son peuple en Exode 15, on a des cantiques, celui de Moïse, celui de Myriam. Quand Dieu ramène Israël de l'exil, là aussi, on a de la joie, psaume 126. Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous avons co-rêvé. Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on se disait chez les autres nations, oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Cette joie est donc une réponse naturelle à l'action de Dieu. Une action présente, mais aussi une action passée et future. Les prophètes ont annoncé une joie future liée à la venue du Messie. Une joie intrinsèquement liée à l'espérance dont parlait-il il y a 2 semaines. Et c'est cette joie qu'on célèbre aujourd'hui. Ésaïe 11, verset 1, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. En ce jour, verset 10, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Ésaïe 35, verset 1 et 2, le désert et la terre aride se réjouiront, la steppe exultera et fleurira comme un narcisse. Le désert qui devient comme les plateaux d'Auvergne avec des narcisses partout, c'est ça la joie de Dieu. Cette joie, elle est intrinsèquement liée à Jésus dont on a parlé, ce cadeau de Dieu fait pour nous. On parle beaucoup de cadeaux à Noël, n'est-ce pas les enfants? Sachez que pour Noël, Dieu nous offre le plus merveilleux des cadeaux. C'est ce qu'il vous avait dit. Ce qu'il a de plus précieux, son Fils, son unique, pour nous sauver. Quand Jésus est né, cette joie, elle va exploser dans le monde. L'ange dit au berger, je vous annonce une bonne nouvelle. Celle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Marie chante, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Et même Jean-Baptiste va tressaillir de joie dans le sein d'Élisabeth quand il sent la présence de son sauveur. Plus tard, Jésus parlera lui aussi de cette joie-là. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie de Jésus n'est pas une joie humaine. C'est sa propre joie divine, donnée à tous ceux qui demeurent en lui. C'est une joie entière qui ne faillit pas, qui ne faiblit pas. Elle emporte sur toutes les autres émotions. Tout cela parce que son origine se trouve dans l'amour de Dieu. Cette joie peut demeurer dans des situations même tragiques, des situations de souffrance. On a parlé tout à l'heure, quelle est la première personne à qui Jésus a fait un miracle ? Ce sont des lépreux. Parfois, quand on pense à Noël, on se dit toujours que cette joie, elle va jaillir. Mais quand on est dans une situation de souffrance, de maladie, cette joie, parfois, l'émotion en tout cas, elle a du mal à venir. Eh bien, à tous ceux qui souffrent, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Noël, c'est avant tout pour ceux qui souffrent. Autrement dit, les enfants, si ce soir, on a compris qu'il y aurait donc du canard et des pommes dauphines, ou des pommes noisettes, je ne sais pas. Mais qu'au final, il ne reste qu'une micro-portion de ce canard et deux pauvres pommes noisettes. Que vas-tu faire, Abigail ? Les manger. Réponse A. Réponse B. Tirer à la courte paille pour savoir du coup qui va manger cette pomme noisette et ce canard. Réponse C. Le partager. Réponse D. Il n'y a pas de réponse D. Alors, quelle est la réponse qu'il faut du coup ici choisir ? Là, c'est effectivement. Parce que, effectivement, la joie de Dieu, ce n'est pas forcément satisfaire son estomac, mais la joie de Noël, c'est aussi le sacrifice. Partager. Donner à ceux qui n'ont rien à manger. La joie de Noël. C'est aussi, même si on a perdu le match hier, c'est pas grave. Je suis plus que vainqueur en Christ. Donc on l'a vu, la joie spirituelle, c'est un cadeau, un présent de Dieu, mais aussi une force. Néhémie 8, verset 10 dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Cette joie spirituelle, dont on vient de parler, elle soutient dans l'épreuve. Elle console dans la tristesse. Jacques 1, versets 2 et 3. Je vais vous lire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Alors attention, la joie biblique, la joie spirituelle ne nie pas la douleur. Mais elle voit plus loin. Elle s'appuie sur la fidélité de Dieu, même dans la nuit. Elle voit toujours dans l'obscurité la lumière de Dieu et elle s'en réjouit. C'est ça aussi Noël. Quand j'étais à La Réunion, je ne comprenais pas ça. Parce que quand on est sous les tropiques, il fait chaud, les journées sont toujours aussi longues et il n'y a pas trop d'obscurité. Par contre, quand je suis arrivé ici, alors là j'ai compris pourquoi... Noël, on le fête le 25 décembre. Parce que l'obscurité est de plus en plus présente. Et Noël, c'est quoi ? C'est la lumière qui fera toujours irruption dans l'obscurité. Un proverbe protestant dit ceci : la foi chante au cœur de la tempête. Et comment ne pas penser à deux personnages du livre des Actes, Paul et Silas, qui en prison chantaient des louanges à minuit. Ils n'ont pas laissé leurs chaînes étouffer leur joie. Et qu'est-il arrivé ? Dieu a envoyé un tremblement de terre, les portes sont ouvertes et les geôliers se sont convertis. Il y a un personnage, tiens, une petite idée, hein, si vous manquez d'idées pour le Noël, ce livre est incroyable. Il a été, c'est une compilation hein, de lettres qu'a écrit le pasteur presbytérien écossais Samuel Rutherford. Donc, il a vécu au XVIIIe siècle. Il a été exilé et emprisonné pour sa foi. Et dans ses lettres, qu'il envoie à plein de monde, mais vraiment à des gens qui ont souffert, il écrit souvent, il parle souvent de la joie d'être uni au Christ souffrant. Voilà ce qu'il dit. « La prison a été pour moi un palais et mes fers des bijoux, tant Christ y était présent. » Ces lettres parlent d'un amour ardent pour le Christ. Je cite, « Ceux qui goûtent à la croix de Christ trouvent qu'elle est un vin doux, non un fardeau amer. Les étoiles pâlissent quand le soleil se lève. Ainsi, toutes les joies de ce monde disparaissent devant la face de Jésus. Le ciel est un océan de joie dont nous ne pouvons ici goûter qu'une goutte. Nos meilleurs jours sur la terre ne sont qu'une ombre, un rayon terni. Mais là-haut est la mer entière, pure et sans rivage. Là, Christ est le soleil qui ne se couche jamais. Et quand nous aurons bu 1000 ans de cette joie, il restera encore une mer infinie devant nous. » Vous en voulez une autre ? Je ne puis expliquer ce que mon âme entrevoit du ciel. Il me semble parfois que je sens, comme à travers des portes entrouvertes, un parfum du monde à venir. C'est un monde de joie écrasante, où les rachetés oublieront la douleur de leur voyage, comme une femme oublie l'agonie lorsqu'elle tient son cœur dans les bras. » Donc ça, c'est la lettre qu'il a envoyée à sa communauté d'Anvers. Un livre, voilà. Si vous voulez des passages comme ça, hein, pour vous donner un petit coup de boost, quand ça ne va pas bien, ou quand il ne reste plus assez de canards, lisez ce livre. Un autre livre, plutôt là pour les enfants justement, qui parle d'une femme qui elle aussi hein, a vécu la souffrance. Elle s'appelle Corrie ten Boom, donc elle a vécu au XXe siècle pour le coup, et elle a été déportée à Ravensbrück parce qu'elle a caché des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a vécu la souffrance dans une foi inébranlable et une joie paradoxale. Ce livre pour les enfants parle justement hein, de cette dame. Elle écrit « La joie n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence de Dieu. » Et après la guerre, elle a pardonné à ses bourreaux. Elle a témoigné dans le monde entier d'une foi joyeuse et lumineuse. Pour le théologien protestant Louis Schweitzer, la foi ne dépend pas des circonstances positives. Et elle demeure alors même que tout se retourne contre le croyant. La joie qui demeure est alors parfaite, car enracinée en Dieu seul. Cette joie spirituelle, vous voyez, hein, au milieu de la douleur, elle peut aussi devenir un témoignage puissant. On le voit avec l'exemple de Paul et Silas. Cette joie n'est pas de l'insensibilité, mais une confiance profonde. Elle redonne de la force pour tenir dans les épreuves, pour tenir dans des situations impossibles. Un cœur joyeux relève les bras fatigués, redonne courage, ranime la foi. Et le diable veut voler cette joie, parce qu'il sait qu'un chrétien joyeux est un chrétien dangereux pour son royaume. Comment faire alors pour avoir cette joie inébranlable ? Thiel a dit il y a 2 semaines, il faut se nourrir de l'espérance. La Bible suggère aussi des petites astuces, par exemple, se rappeler les bontés de Dieu, entretenir sa relation avec Dieu par des prières régulières, la lecture de sa parole, développer la reconnaissance et le contentement, éviter de s'en comparer aux autres. Mais ces efforts, j'ai le regret de vous l'annoncer, cette discipline, elle ne produira rien si vous ne laissez pas faire l'Esprit Saint. Car c'est la dernière partie de ma présentation. La joie, c'est aussi une partie du fruit de l'Esprit. Et souvent, on néglige de la demander, cette joie. Dans nos prières, on parle souvent plus de patience, on veut plus de patience, notamment avec les enfants parfois, donne-moi de la patience, plus de foi parfois, hein, quand on est dans un moment de doute, de choix. Mais on ne demande pas forcément à Dieu plus de joie. Encore une fois, on n'a pas à produire ce cadeau par nous-mêmes. Dieu nous le donne. Et même si on regarde tout le temps le verre à moitié plein, cette joie ne sera qu'une seule, une simple émotion. Il faut aller plus loin. C'est l'Esprit Saint qui va travailler et qui va produire en nous ce fruit. C'est ce que dit Galates 5, versets 22 à 23. Vous le connaissez, ce verset. Hein. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie. Vous voyez, ça vient tout de suite après. Et ensuite, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais vous voyez que la joie, finalement, elle arrive très, très tôt. Même si tout s'ébranle autour de moi, je vais pouvoir trouver une joie profonde parce que je sais que ce que Jésus a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour moi, notamment à Noël, est bien plus que tout ce qui peut m'arriver aujourd'hui. Dans notre monde, il y a de vrais sujets de joie. Mais tout peut faillir. La source de la joie en Dieu, elle est solide. Elle se focalise sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ nouveau-né, accomplissement des promesses de Dieu. Sur Jésus-Christ crucifié, accomplissement du plan de Dieu. Sur Jésus-Christ ressuscité, accomplissement de notre salut. Et enfin, sur Jésus-Christ glorifié, espérance qu'il revient bientôt. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce dernier verset que je vous propose. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Une interprétation qui ne veut pas dire de dénigrer ou de taire les autres émotions. Hein. Une interpellation qui ne dit pas de faire comme si tout allait bien, hein, je suis dans la joie, mais en fait à l'intérieur ça va mal. Non, il y a un détail qui fait la différence. Il est dit de se réjouir de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu continue à faire et de ce qu'il reviendra bientôt. C'est ça aussi Noël. C'est pour cela qu'il ne faut pas limiter cette joie à l'émotionnel. La joie de Dieu est comme un repère, une ancre dans la tempête. Le pasteur américain Timothy Keller a écrit « Vous ne savez pas vraiment que Jésus est tout ce dont vous avez besoin jusqu'à ce que Jésus soit tout ce qu'il vous reste. » En conclusion, frères et sœurs, la vraie joie, c'est pas forcément le canard et les pommes noisettes. La vraie joie ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans qui nous possédons. Et nous avons déjà le plus beau des cadeaux, Jésus-Christ et sa joie divine. Cette joie, personne ne peut vous la ravir. Personne. Elle vient de la croix, de la résurrection et de l'espérance. Cette joie est déjà en vous parce que vous avez déjà l'Esprit. Alors aujourd'hui, si vous êtes abattu, souvenez-vous, la joie de l'Éternel est votre force. Si tu es dans la peur, laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur de joie. Et si tout va bien, répands cette joie autour de toi. Partage tes pommes noisettes. Prions.